bonne journée sur RVE, il est 18h.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
C'est Jean-Michel ce soir, rencontre avec.
Rencontre avec ce soir Jean-Paul Guerlain. Bonsoir, monsieur Guerlain.
Bonsoir, mon cher.
Alors, en 1828, Pierre-François Pascal Guerlain ouvre sa première boutique rue de Rivoli à Paris. Il crée des parfums différents pour chaque client. Déjà, c'était quelque chose de
non,
particulier.
C'est un peu faux de dire que...
Ah ben, je commence mal, alors.
Alors, la rue de Rivoli, c'est pas tout à fait vrai. Et en plus... Il ne crée pas des parfums pour chaque personne. Il a commencé à faire de la parfumerie, mais à cette époque-là, les parfumeurs étaient un peu comme des épiciers. La parfumerie n'avait pas du tout, c'était pas du tout la même que celle qu'elle était actuellement. C'était des gens qui vendaient. C'était un peu des droguistes.
D'accord.
Et c'est lui qui a fait évoluer la parfumerie vers des produits de luxe, et il a surtout eu la chance de créer l'eau de Cologne impériale. Il y avait des eaux de Cologne, qui était la 4711 de Mullen, c'était l'eau de Cologne de Roger Gallet et la nôtre, mais la nôtre était probablement la meilleure, puisque on a réussi à la vendre à la cour impériale de l'empereur Napoléon III, et ça a été pour nous le pied à l'étrier, et nous sommes devenus fournisseurs de l'impératrice, et nous avons fabriqué un produit que nous continuons à fabriquer suivant exactement la même formule, avec le même flacon, qui est un flacon avec des abeilles gravées. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai, il y a quelques années, il y a je pense 10 ou 15 ans, ai fait refaire l'outillage pour faire ce flacon, car je trouvais qu'au fil des ans, le moule s'était terriblement usé, et que, si j'étais vulgaire, je dirais que c'est ce qui avait été des ravissantes abeilles était un peu devenu des mouches à merde. Et donc, je me souviens que j'ai été surveiller la réfection de ce moule, et que le type en avait marre de ces abeilles, car il avait gravé quelque chose comme 300 abeilles avec un petit stylet dans de la cire pour faire le moule, qui après allait être moulé, en fait, dans du métal pour en faire le moule dont on sortirait les flacons.
Bien. Alors, bon, je me suis un petit peu planté en disant que c'était rue de Rivoli, mais est-ce que vous contestez que en 1840, il s'installe dans les locaux dans la rue de la Paix ?
Oui, alors ça, c'est tout à fait vrai.
Ouais.
Oui, ça, c'est tout à fait vrai.
Alors, donc, il s'installe dans les locaux de la rue de la Paix, un lieu très, très à la mode à l'époque, et il compose ses fragrances sur mesure pour de nombreuses personnalités, notamment la reine de Belgique. C'est authentique, tout ça ?
C'est la reine de Belgique, peut-être. Enfin, l'opération importante, c'est l'introduction de Guerlain à la cour impériale. Après, nous avons été... je ne me souviens pas qu'on ait tellement parlé de la reine de Belgique, mais on a surtout parlé de l'impératrice de Russie, de, bien sûr, Napoléon III, de l'Angleterre, et de, nous avons été le fournisseur de toutes les cours impériales.
Bien. Alors, on va essayer de tracer votre portrait, vous, personnellement, Jean-Paul Guerlain. Alors, dès l'âge de... Alors, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, puisque j'ai commencé par dire des bêtises. Alors, vous m'arrêtez, n'hésitez pas, vous m'arrêtez. C'est une question... on travaille à bâton rompu, je vais dire. Alors, dès l'âge de 16 ans, vous êtes initié par votre grand-père à l'apprentissage des accords maison, entre guillemets.
C'est-à-dire, tout à fait, par hasard...
Les fameuses guerlinades.
Je ne devais pas du tout être parfumeur, pour des raisons de santé d'ailleurs, alors que c'est mon frère aîné qui devait rentrer dans la maison Guerlain, car le droit, parce que je rigole toujours, c'est le droit d'Annès, le droit d'Aînès, c'était toujours l'aîné qui rentrait dans la maison. C'est mon frère qui devait rentrer dans la maison et qui commençait ses études de pharmacie pour s'occuper de cosmétiques. Et puis, à ce moment-là, j'ai perdu la vue, alors que je me préparais à faire des études de lettres. Mon grand-père ne supportait pas de me voir avec une nounou. A dit à mon père, envoie ce gamin vivre avec moi. Et je l'ai suivi comme un petit caniche. Et j'ai commencé à faire de la... Enfin, j'ai senti des mouillettes, j'ai fait ce qu'il faisait. Et il a cru que j'étais doué. Et puis un jour, il a dit à mon père, c'est pas ton fils aîné qui rentrera dans la boutique, c'est Jean-Paul. Et bien, je suis devenu parfumeur.
D'accord.
Et
d'ailleurs, dès le début des années 60, je crois...
Bien avant.
Oui.
Bien avant.
Mais vous allez transmettre... vous allez déposer votre empreinte, vont naître ainsi des fragrances qui intègrent l'évolution de la femme et sa place dans la société, Chamade, par exemple.
Ah oui, non, mais bien avant, j'ai fait bien avant, hiver, oui, ouais. En 58.
Ouais.
On
est proche des années 60,
ans,
là. Hein. On est quand même très proche des années 60.
J'ai fait vétiver en 55.
D'accord.
Et c'est là où mon grand-père m'a vraiment adoubé. Puis après, oui, j'ai fait Chamade, j'ai fait une quantité de parfums.
Alors, la femme devient, ça c'est très joli quand j'ai lu ça, la femme devient Samsara, c'est un mot transcrit, sanskrit signifiant renaissance éternelle, symbole de mystère et de séduction. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet ?
Rien, mon grand-père m'a dit quand j'avais 16 ans et que j'ai commencé à travailler avec lui, mon petit, souviens-toi d'une chose, on crée les parfums pour les femmes qu'on aime.
C'est joli.
Il a eu un sourire un peu triste en disant « Je ne fais plus que des parfums de vieille dame. » je n'ai jamais dérogé à la règle et j'ai créé toute ma vie des parfums pour les femmes avec lesquelles j'ai vécu. Dont évidemment Samsara, que
d'accord,
j'ai créé pour une femme avec laquelle j'ai vécu 19 ans.
Bien. Alors, on vient de le dire, hein, vous êtes le créateur de senteurs masculines aussi, dont Vétiver, Habit Rouge, Héritage, Corollian.
Corollian, oui, bien sûr.
Ces parfums sont achetés par ceux qui osent et qui s'affirment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Je ne sais pas si achetés par des gens qui aiment. Ces parfums sont achetés par des gens qui aiment une parfumerie de luxe. Voilà. Et
d'accord.
Notre métier, c'est de faire de la parfumerie de luxe.
Mais Jean-Paul Guerlain, vous êtes aussi un passionné de cheval. Et
oui.
Je me suis laissé dire que vous êtes pratiquement en selle, vous étiez pratiquement en selle chaque matin dans le parc de votre propriété.
Chaque matin ou chaque soir, oui, sûrement, oui.
Et je me suis laissé dire aussi que vous étiez un cuisinier hors pair. Alors, je ne suis pas très surpris par ça, parce qu'un nez, un grand nez, entre guillemets, hein, NZ, doit être aussi un fin gourmet. Je m'imagine
je
ça.
Je pense que, vous savez, il ne faut pas oublier que toute la cuisine transite d'abord par l'odorat. On commence par sentir.
Bien sûr.
Alors, je crois que c'est un métier assez proche. Les deux métiers sont assez proches. Et en fait, moi, j'ai fait la cuisine, non pas peut-être par plaisir, simplement parce que dans ma famille, on avait des très bons cuisiniers, et pour qu'on en avait les moyens, des chefs, des cuisinières. Et quand je me suis marié, je n'avais pas les moyens. J'ai trouvé une femme qui est avec moi depuis 46 ans, qui est une cuisinière remarquable, qui s'appelle Jeannine, qui est toujours avec moi. Alors, j'ai commencé par lui apprendre la cuisine, elle savait faire une cuisine bourgeoise, elle était fille de garde-chasse, J'ai pris tous les grands traités de cuisine et puis je les ai ouverts et je lui ai expliqué comment il fallait faire sans jamais avoir touché la queue d'une casserole.
D'accord.
Jusqu'au jour où elle a eu... Malheureusement, elle est tombée tuberculeuse et, et là, j'avais une femme à l'époque qui était totalement anorexique, mystique, anorexique, qui ne savait pas faire cuire un œuf à la coque, une Portugaise qui était aussi maladroite. Et j'ai retroussé mes manches et j'ai dit « Oh, minute papillon, maintenant c'est plus de la rigolade, il faudrait peut-être te mettre au fourneau. »
D'accord.
Et je me suis mis au fourneau et j'ai
eu avec brio.
Qui m'ont aidé beaucoup, dont mon ami Jean-Pierre Philippe qui est décédé actuellement, qui était chef à la Toque Blanche à côté d'ici. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé, qui m'ont donné des trucs, et j'ai, ben finalement, j'ai, en 40 ans, j'ai perfectionné. Et quand ma fidèle Jeannine est revenue, après quelques années, je dis qu'on ne dirait pas que le maître avait dépassé l'élève, mais nous avons fait une équipe extraordinaire, et qui dure depuis 46 ans.
Bien. Bien, alors vous avez encore une autre facette de votre personnalité. Vous êtes le pourfendeur du luxe au rabais. Expliquez-nous ça.
Le luxe au rabais, oui. Je dis que la chose la plus importante dans notre métier, c'est la qualité.
Ouais.
C'est la même chose dans la cuisine, d'ailleurs.
On va en reparler tout à l'heure, vous allez voir.
On parle de la cuisine au rabais. Mais le luxe au rabais, j'ai toujours, mon obsession a toujours été. Maintenant où je suis une demi-retraite, je veux dire. Mon obsession a toujours été de faire, d'utiliser de très bons produits pour faire de la parfumerie de qualité.
D'accord, bien.
On ne fait pas de la parfumerie avec de mauvais produits.
Bien, très bien. Alors, désormais, aujourd'hui, vous souhaitez ne vous consacrer qu'à votre plantation d'Ylang Ylang à Mayotte. Non. Et à son usine d'extraction de fleurs d'oranger en Tunisie.
C'est pas une usine, d'ailleurs. Je ne souhaite
j'ai tout
pas
faux, quoi, dans mes
me
questions.
Consacrer qu'à ça. J'ai effectivement une plantation à Mayotte. Je viens de m'occuper beaucoup cet après-midi. Où je distille de l'ylan, parce que un beau jour, je me suis aperçu que je ne trouvais plus d'ylan. J'ai trouvé le moyen d'acheter une petite plantation et j'ai reconstruit des alambics comme à l'ancienne et j'ai commencé à faire de l'essence d'ylang. Et puis le hasard a fait que j'ai racheté une affaire de distillation de fleurs d'oranger.
En Tunisie.
En Tunisie, d'ailleurs, on commence à distiller demain.
À Nabeul, exactement, c'est ça.
À Nabeul, exactement, enfin près de Nabeul. Oui. Parce que là aussi, on avait des problèmes de fourniture. On a commencé à s'occuper de la production d'essence de fleurs d'oranger à Nabeul quand il y a eu des gels très importants dans le Midi. Et que tout d'un coup, tous les orangers ont gelé. Et comme un oranger, il faut 10 ans. Ou plus pour qu'il commence à produire, on s'est dit qu'il y avait un pays où on pouvait produire de l'essence d'île de fleurs d'oranger, c'était la Tunisie, où on en produisait déjà, et voilà.
D'accord.
Et puis moi, cette affaire a marché pendant très longtemps, très bien, je m'en suis beaucoup occupé, et puis à un moment, il y a eu des problèmes... Et j'ai réinvesti dedans et maintenant je suis majoritaire à 90% de cette affaire.
Très bien. Bon, mais le voyage reste quand même votre dada un peu. Et en octobre 2002, vous publiez du reste un carnet de voyage aux éditions du Cherche Midi.
C'est tout à fait vrai. Depuis des années, parce que par lors des réceptions, des dîners... des amis me faisaient raconter mes voyages, mes histoires, et m'ont dit un jour, pourquoi tu n'écris pas un livre ? Et j'ai écrit, je me suis lancé dans cette affaire, et
d'accord.
J'ai écrit ce livre qui s'appelle La route de mes parfums.
D'accord, ok.
Bien, alors Guerlain, aujourd'hui, sans Jean-Paul Guerlain, le nez, ne risque pas de s'enrhumer ?
Non, pas du tout. Guerlain ne risque pas de s'enrhumer. Moi, je suis maintenant, je ne suis plus que consultant.
Oui.
Mais je fais quand même, peut-être plus toutes les créations comme je faisais, mais un tiers en tout cas. Et j'ai encore mon mot à dire pour beaucoup de choses. Mais Guerlain peut parfaitement vivre sans moi.
Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose d'adopter une pause musicale. Comme ça, ça nous permettra de nous abreuver un petit peu. Et puis, on reprend tout de suite après, si vous le désirez.
Je parlais de l'amour comme on parle du temps, sans l'avoir vu au jour, sans le connaître vraiment. J'y pensais comme on rêve, j'en rêvais sans y croire, entre ces cœurs en grève et ces histoires pour voir. Je m'attendais pas à toi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à moi dans ce rôle-là. Je m'attendais pas à lire autre chose que mon livre, je m'attendais pas à vivre au-dessus de mes lignes. Dans cette foule de gens seuls, toutes ces vies qui se frôlent, ces corps qui s'en veulent, ces chagrins sans épaule. On respire l'air du large, l'air du temps, l'air de rien. On veut tous prendre le large, personne connaît le chemin. Je m'attendais pas à toi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à moi. Je m'attendais pas à lire autre chose que mon livre, je m'attendais pas à vivre au-dessus de mes lignes. Et puis j'ai vu ta tête, un clown aux yeux qui brillent, tes chagrins dans les fêtes et ton rire qui rougit. D'être fragile, tes peurs après la nuit, les princesses que j'ai lues étaient moins farfelues. Je m'attendais pas à toi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à moi dans ce rôle-là. Je courais sans lanterne vers une aube qui s'enfuit, aux endroits où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit. Je m'attendais pas à toi, je m'attendais pas à moi dans ce rôle-là. Et la route fut belle, de mes rêves à ma vie, croustillante de dentelle, rideau neuf, nouveau lit. J'ai posé mille questions à mon cœur, à ma tête. J'ai planté le vieux garçon au milieu de ces peut-être. Tous ces jours plus pareils, tous ces matins parfaits où tes yeux me réveillent. Dans un rire, un secret, je m'attendais pas à ça.
Rencontre avec.
Rencontre avec.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de RVE et vous avez bien raison. Nous recevons donc aujourd'hui Jean-Paul Garlin. Alors, Jean-Paul Garlin, comment devient-on né ? Il n'y a pas d'école pour ça, c'est très subjectif. Ou bien, est-ce que cela s'éduque ?
S'il y a une école, enfin non. Mais je crois qu'on devient né... Les gens sortent du sérail, les 9 dixièmes des parfumeurs sont issus de familles grassoises. Grasse est quand même le pays où on a fait de la parfumerie, où on a formé les parfumeurs. Est-ce que ça s'éduque, est-ce que ça s'éduque pas? Ça s'éduque sûrement, mais il y a deux choses. Le parfumeur qui sent, et le parfumeur qui crée.
Ouais.
Alors, je crois que le plus difficile, c'est de créer.
Ouais.
Il faut une forme d'imagination un peu particulière.
Alors justement, pour la création d'un parfum, comment ça se passe? Vous, le nez, spontanément, vous décrétez « c'est ça que je veux » ou bien c'est un impératif économique qui fait que vous répondez à un besoin circonstanciel?
Alors maintenant, c'est de plus en plus des impératifs économiques que je regrette, qui sont dus au marque, ce que j'appelle en rigolant le marketage.
Ouais.
Moi, j'ai toujours fait de la parfumerie, je vous l'ai dit tout à l'heure, en créant un parfum pour une femme.
Ouais.
Sam Sarah, qui a sûrement été un des plus grands succès de l'histoire de la parfumerie, a été créé pour une femme dont j'étais fou amoureux et qui ne se parfumait pas et qui j'ai dit un jour vous parfumez pas m'a dit parce que rien ne me plaît. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui vous plairait? J'avais terriblement envie de la séduire et je n'étais ni Schumacher ni Karajan Voilà, je me suis dit, il faut trouver une autre solution. Et j'ai eu l'idée de lui dire, mais qu'est-ce qui vous plairait comme parfum? C'est étonnant qu'une femme aussi raffinée que vous ne se parfume pas. Et elle m'a dit, mais j'aimerais un parfum qui sente le jasmin, le santal. Et voilà, comme on dit en matière d'opéra, il y a... J'avais l'argument pour écrire la partition. Et,
d'accord.
Et je lui ai fait un parfum qui a été sûrement un des parfums les plus... qui restera un des parfums les plus célèbres de l'histoire de la parfumerie.
Bien, alors Jean-Paul Garlin, quand on a cette passion, car avant d'être un métier, tout le monde aura compris que c'est avant tout une passion, certes enrichissante sur le plan pécunier, mais une passion quand même. Êtes-vous d'accord là-dessus?
Sur le fait que
C'est une passion parce que vous avez la passion d'une femme et d'un seul coup, vous avez l'imagination.
Je crois qu'il faut se dire quand même que la parfumerie, ce n'est pas un produit de marketing. Et ça, je déteste l'idée du marketing. Vous avez un peintre peint un paysage, non pas pour un peintre paysage, parce que ce paysage l'inspire. Moi, je suis... très amateur de tableaux et de peinture. Et d'ailleurs, demain, tiens, je vais voir l'exposition au palais d'Orsay de Pissarro. J'y vais parce que j'admire ces gens-là. Et j'ai chez moi des tableaux parce que j'aime les tableaux et je ne crois pas, je crois pas du tout qu'il y ait... simplement une histoire de gains et de profit là-dedans.
D'accord. Bien. Alors, Jean-Paul Garlin, quels sont les grands souvenirs de votre vie? Y a-t-il des moments plus forts que d'autres que vous pouvez nous citer, par exemple?
Oui, y a beaucoup de...
Je m'en doute.
Le temps fort. Oui. Le temps fort, l'histoire de la parfumerie.
Oui.
La première fois que j'ai sorti dans la rue, quelqu'un qui portait un parfum que j'avais créé.
Ouais.
J'ai quand même eu un choc. Quand j'ai créé Sam Sarah, tout d'un coup, les rues se sont mis à sentir les Sam Sarah. Quand j'allais à l'opéra, quand j'allais partout.
Vous en tirez une grande fierté de... Ouais.
J'avais,
forcément.
J'avais à ce moment-là, comme j'avais fait ce parfum pour une femme dont j'étais fou amoureux, j'avais un battement de cœur et c'était quelque chose de merveilleux. Ouais. Je
Sûrement.
Veux dire, tout récemment, je viens de subir une intervention assez sérieuse à une prothèse de la hanche et j'étais dans un hôpital à Paris et d'un coup je suis sorti pour aller me faire charcuter et j'avais dans une chambre que je partageais avec quelqu'un un brave Allemand qui avait eu un accident, cassa la gueule entre le wagon et la voie de chemin de fer et qui a dit à l'infirmière ou au chirurgien qui venait le voir, ce monsieur porte le même parfum que moi.
Alors,
il portait du vétiver.
Ah, d'accord.
Que j'avais créé il y a exactement 51 ans. Et c'était le chirurgien d'ailleurs qui lui a dit, mais monsieur, ce monsieur, c'est monsieur Guerlain. C'est lui qui a fait vétiver. Et moi, quand je me suis réveillé après, et qu'on m'a raconté l'histoire, ça m'a fait très chaud au cœur.
Je m'en doute.
Voilà.
Tout le monde s'en doute. Ouais. Alors, bien sûr, dans votre carrière, Jean-Paul Guerlain, vous avez dû rencontrer des grands ou des grandes de ce monde. Quel souvenir en tirez-vous, finalement ?
Je suis extraordinairement fier de voir une femme élégante ou un homme élégant porter un parfum que j'ai créé.
Mmh.
Voilà,
c'est légitime.
Sans aucun doute.
C'est complètement légitime.
Sans aucun doute, j'ai créé un parfum pour Catherine Deneuve qui s'appelle Naïma. Et je n'ai eu l'idée quand j'ai vu un film qui s'appelait Benjamin ou Les Mémoires d'un puceau. C'est un film merveilleux où elle apparaissait dans une cage en or avec des petits oiseaux et des roses partout.
Mmh.
Et j'ai eu cette femme absolument sublime. Quel était l'acteur qui jouait avec elle
Benjamin, ça doit être le grand Jacques Brel.
Non.
Non, c'est pas lui qui jouait dans Benjamin.
Non. Ah, est-ce bête ?
Oui, bon, c'est vrai. Moi aussi, j'ai la mémoire qui flanche, là.
J'ai la mémoire qui flanche. Eh bien...
Moi aussi.
j'ai eu tout d'un coup ce choc en me disant j'ai envie de faire un parfum à la rose pour cette femme.
On en revient toujours au même endroit, quoi. C'est-à-dire que vous êtes inspiré par la femme, quoi. Et...
Vous voulez... Saint-Laurent a écrit... un article dans je ne sais pas quel journal de mode en disant « Je n'ai jamais créé un parfum pour une femme qui n'existe pas. » Je n'ai jamais créé une robe pour un parfum qui n'est
pour une femme ?
Pour une femme qui n'existe pas.
Ouais. Ce qui paraît logique.
Voilà.
Bien. Alors, une question maintenant qui va coller un petit peu à l'actualité. L'industrie du luxe est-elle compatible avec les sales moments que nous connaissons dans la société actuelle ? Comment, avec du recul, analysez-vous ça ? Avec le recul des événements qu'on a connus, les événements en banlieue, est-ce que l'industrie...
Il ne faut pas mélanger les choses, vous savez. Il y a ce qui s'est passé, il y a les casseurs, il y a les voyous, il y a des gens, bien sûr, qui cherchent un certain bien-être et qui se battent pour l'obtenir. Et ce n'est pas pour ça qu'on va supprimer les vitrines bien de Cartier, de Guerlain
bien
et
sûr.
D'autres gens.
Bien sûr.
Et qu'on va supprimer les grands restaurants. Ouais.
C'est certain. C'est certain. Alors, j'aimerais maintenant qu'on dise deux mots de la contrefaçon. Vous, le créateur, le bosseur, puisque c'est un... On est obligé de bosser dans ce métier. Hein. Vous
un
devez
peu.
Être passablement frustré d'être contrefait. En d'autres termes, comment réagissez-vous devant ce que je vais appeler un bradage, un dumping de votre matière grise à vous ? Votre création est réduite à néant ?
Écoutez, il ne faut pas... La contrefaçon, c'est la rançon du succès. Mon père a été président de l'Union des fabricants. Il a été président. C'est lui qui a créé le comité Colbert. Mais il a été président de l'Union des fabricants. Et il s'est battu pour lutter contre la contrefaçon. Nous avons été personnellement, en tant que Guerlain, d'une manière différente que Viton, terriblement agressé par la contrefaçon en Corée. Certains qu'en France, pour faire un outillage, pour faire un flacon, un moule, pour tirer un moule, il faut faire au moins 5000 exemplaires. Dans ces pays-là, il faut faire 50 000 exemplaires, je veux dire. Dans ces pays-là, à 3000 exemplaires, on y arrive.
Ouais.
Mais ce qu'il y a dedans, c'est dégueulasse. Alors, c'était l'exemple de petits contrefacteurs grassois qui avaient des boutiques, qui attiraient tous les marins des porte-avions américains et qui leur proposaient du Chalimar, soi-disant du Chalimar ou du Chanel. Et le flacon était à peu près bien contrefait, les boîtes aussi. Et ce qu'il y avait dedans, c'était zéro.
Ouais.
Alors c'était embêtant quand ils arrivaient à retrouver leur petit ami qui leur disait « Ton number five, c'est dégueulasse.
» Ouais.
Alors, je crois que, quand même, la qualité se retrouve toujours.
Bien sûr, bien sûr.
Et enfin, mon père a sûrement été le premier à vraiment se battre pour la contrefaçon. Et j'ai un fils, d'ailleurs, qui a hérité de son grand-père et qui est un des plus grands avocats pour la contrefaçon.
Ah, d'accord. D'accord. Bien, alors, on va aborder un petit peu maintenant, puisque vous avez une unité de fabrication qui se situe dans les Yvelines, la limite des Yvelines et de l'Eure-et-Loire, donc en plein cœur de ce fameux pôle de compétitivité.
Dont j'ai été un des artisans.
D'accord. La fameuse Cosmetic Valley.
C'est moi qui ai été à l'origine, je démissionnais de la Cosmetic Valley il y a un an. Il y a très longtemps que je voulais démissionner, d'ailleurs, parce que...
Ouais.
Et oui, effectivement, c'est une idée que j'ai eue quand un certain nombre de nos confrères se sont installés dans le coin.
Notamment des Coréens, d'ailleurs, du côté de Chartres. Je me suis laissé dire qu'il y avait quelques Coréens Bon, alors donc, vous y croyez donc à ce pôle de compétitivité, à ces pôles de compétitivité, parce que...
Si j'y croyais pas, je pense pas que M. Breton
serait
venu nous voir et nous aurait donné le label.
D'accord. Bien, alors, ça va très vite, on le sait. Alors, quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose ce soir? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose quand on va fermer cette émission? Est-ce qu'on sera passé à côté de quelque chose de très important dont vous auriez envie de parler?
Mais j'aurais surtout envie qu'on parle de ce que c'est que la qualité.
D'accord. Alors,
c'est-à-dire que notre industrie est une industrie de luxe et que le plus important pour nous, c'est le respect de la qualité.
D'accord. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que elle est un petit
sûr.
Peu... Bien
sûr. Malheureusement, avec les problèmes de mon fameux marketage, on fuit de plus en plus la notion de qualité pour mettre de l'argent sur la publicité, sur les campagnes publicitaires, et de moins en moins sur le produit lui-même.
D'accord.
Et ça... Je pense que c'est catastrophique.
Et ça nuit à tout, quoi, en fait.
C'est une catastrophe.
Ouais.
Il faut faire des produits de très belle qualité.
D'accord.
La qualité, ça paye.
Et vous pensez que...
Si vous croyez que des maisons comme Volkswagen, par exemple, ont racheté Rolls-Royce... ont racheté Bentley, ont racheté Lamborghini, c'est pas pour des prunes.
Bien sûr.
Et Bugatti, par exemple, c'est pas pour des prunes. C'est parce que, pour eux, l'image des marques est une chose extrêmement importante.
D'accord. Bien, tiens, justement, puisqu'on parle de ça, qu'est-ce que vous pensez de ces fameuses MDD, les marques des distributeurs, par exemple dans l'alimentaire, dans la parfumerie de tous les jours, c'est-à-dire les shampoings, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Écoutez, il faut des produits de grande consommation et puis il faut des produits de luxe. Moi, je suis dans le luxe.
D'accord.
À l'état pur.
D'accord.
Il faut des produits de grande consommation. Et je ne suis pas du tout contre, et c'est normal. Mais
on a besoin du reste.
Je suis dans le luxe.
D'accord. Bien, Jean-Paul Guerlain, je disais donc que ça va très vite, donc on va adopter une deuxième pause musicale très rapide, et puis on conclut cette émission.
Oh, Lord, am I trouble so hard. Oh, Lord, am I trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Oh, Lord, am I trouble so hard. Oh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Avec.
Bien, vous êtes toujours à l'écoute donc de RVE. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez raison, et je pense que vous, au fil de cette émission, vous avez de plus en plus raison de rester à notre écoute, parce que c'est passionnant ce dont on est en train de parler. Alors, pour mieux cerner votre personnalité, Jean-Paul Garlin, nous allons procéder à une série de questions-réponses très brèves. Très très brèves. C'est pour cerner un petit peu votre personnalité. Alors, d'abord, sucré ou salé ?
Salé.
Salé. Bien. Mer ou montagne ?
Mer.
Pour les grands larges ?
J'ai la claustrophobie en montagne.
D'accord. Costume strict ou jeans ?
Plutôt strict.
D'accord. Champignons que vous allez cueillir ou champignons lyophilisés des supermarchés ?
Non, champignons que je vais cueillir.
Bien.
J'habite la campagne.
Petit vin de pays ou grand cru classé ?
Il y a simplement pour moi le vin qui est agréable à boire.
Bien. Cigare ou cigarette ?
Je ne fume plus.
Bon. Alors, savon de Marseille ou crème bain de douche telle qu'on les trouve dans les supermarchés ?
Savon de Marseille.
Sans aucune ambiguïté, j'ai l'impression. Ouais. Paris ou province ?
Province.
Richard Anthony ou Richard Klederman ? Ce sont des questions très saugrenues.
Klederman.
D'accord. Bouffe entre amis ou 3 étoiles Michelin ?
Bouffe entre amis.
Et enfin, la dernière, apéritif ou digestif ?
Apéritif.
Bien. Alors, on arrive quasiment à la fin de cette émission, et il y a une tradition dans cette émission. Personne n'y coupe. Hein. J'étais avec Jean Lacouture la semaine dernière, qui était à votre place là maintenant. Il a été très surpris, mais il n'y a pas coupé. Alors, vous n'y couperez pas, car c'est le moment tant attendu par nos auditeurs, c'est la fameuse question à la con. Alors pourquoi cette question à la con ? Et vous avez le droit en avoir deux, là, ce soir. Pourquoi ? Parce que quand on a terminé une interview, il est fréquent qu'on entende des auditeurs dire « Tiens, pourquoi l'intervieweur a posé cette question à la con ?» Eh bien, moi, je la revendique. Je la revendique.
Allez-y.
Totalement. Si vous n'aviez pas été l'héritier d'une dynastie de nés, entre guillemets, auriez-vous penché pour un autre sens, par exemple, le goût, tout simplement ?
Le goût est quelque chose qui m'a toujours terriblement
attiré.
Je dis toujours, quand on me dit « Quel est votre premier souvenir de parfumeur ?» Je dis « C'est l'odeur de la tarte fraise que m'avait fait ma mère alors qu'elle déménageait expulsée par les Allemands en 1940. » Elle m'avait fait quand même pour mon anniversaire une tarte aux fraises. C'est mon premier souvenir olfactif. Donc, j'étais déjà gueulard et le goût était quelque chose de très important.
Bien. Alors, je vous ai promis, chers auditeurs, qu'il y aurait une deuxième question. Et celle-là, elle concerne directement la personnalité de Jean-Paul Garlin. Qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Paul Garlin ? Qu'est-ce que ça vous fait d'être plus connu dans le monde que quelqu'un comme votre nom, hein, votre nom, votre prénom, d'être plus connu que quelqu'un comme Alain Delon.
Je ne suis pas plus connu.
Ah ben vous êtes connu universellement. Garlin, on le connaît à travers le monde entier.
Je ne suis pas plus connu qu'Alain Delon. Et je respecte beaucoup M. Delon. Je ne suis pas du tout plus connu que M. Delon. Je suis content que mon nom soit respecté dans le monde. Ce n'est pas mon nom à moi. C'est le nom de ma famille.
D'accord.
Oui, j'en suis très fier, mais je ne suis pas connu que, plus connu que M. Delon ou qu'un certain nombre de grands acteurs.
Dans cette question, je voulais dire par là que Garlin est connu partout. Partout, on peut se déplacer dans n'importe quel pays du monde.
Comme
Garlin.
On connaît Hermès, comme
oui,
on connaît
voilà, par exemple.
Vuitton, parce que nous faisons notre métier convenablement.
Oui.
Et voilà.
Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie.
J'ai passé un très bon moment en votre compagnie.
Eh bien, c'est très gentil à vous.
Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, je suis extrêmement heureux.
Alors, merci beaucoup, Jean-Paul Garlin,
merci
de vous être prêté à cette série de... Voilà, cette émission est complètement terminée maintenant. La semaine prochaine, je crois que je reçois Jean-Paul Huchon, si mes souvenirs sont bons, qui est le président du conseil régional de la région Île-de-France.
C'est
voilà.
Pas exactement la même chose.
Non, c'est intéressant aussi.
Très bien. Merci, monsieur.
Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul Garlin, de votre présence.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Rencontre avec. Rencontre avec.
come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say a dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby.
Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby?
I don't say dirty, dirty love. Stay a dirty, dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
So girl, they try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
That's a loving from the start, but you know we're out to part. That's the way I give my love.
I'm still in love. Yes, I'm still in love.
What a man gotta do, what a man gotta do. Girl, well I never have a promise and I'm bling bling for all the girl. Well I love the loving when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl. And I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night me give you love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't
I
perform.
I love you baby.
I'm sure you get a little loving on my God.
You don't know how to love me.
I ain't know no time for no kissing and charm.
Not even how to kiss me.
I sure me take a little advice, darling.
I don't know why.
Baby girl.
I love you, baby.
I don't say nothing, love. Say that's a dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
So girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love.
I'm still in love. Yes, I'm still in love.
Yo, what a man gotta do? What a man gotta do, girl? Hey, I do me give a dog love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask a question, why? When me leave in me city, girl, I cry. And it hurts my heart to tell a lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before.
I love you, baby.
I told you get a little loving and me gone.
You don't know how to love me.
Time for no kiss up, no
not
charm.
Even how to kiss me.
I do my take your little advice down.
I don't know why.
Hey, baby girl.
I love you, baby.
I don't say dirty, dirty love.
I'm still in love with you, boy.
Well, I'm a hustler and a player, and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love. Just a man, that's the way I give my love.
I'm still in love with you, boy.
The best of lover from the start, but you know we're at the part. That's a dirty, dirty love.
I'm still in love, yes, I'm still in love with
what a man gotta do, what a man gotta do, girl.
then. And boy, your love's enough with words unspoken. I said, boy, I'm telling you, you got me open. I don't know what to do, it's true, I'm going crazy over you. I'm begging, S.O.S., please, somebody help me.
It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making,
oh, why you making this hard?
You got me tossing and turning, can't sleep at night. It's time, please, someone come and rescue me.
RVE 103.7. Don't misunderstand me, 'cause I want you. I see you on the floor, baby, I want you.
Baby, stop where you're standing. I need to talk to you. Last night was really crazy, and I wanna make it up to you. And I didn't realize that I meant anything to you. But now that I know your feelings, I need to get it through to you.
Don't misunderstand me, 'cause I want you. I see you on the floor, baby, I want you. Don't misunderstand me, 'cause I want you.
Let me dance.